Bonjour, chers auditeurs. Comme chaque premier mercredi du mois, nous retrouvons l'association Claire d'Étoiles. Aujourd'hui, c'est Pascal qui va d'abord nous parler du ciel de décembre. Puis, dans le focus, il sera question des transits de planètes. Et à ce sujet, nous évoquerons les mésaventures d'un gentilhomme français du XVIIIe siècle. Bonjour Pascal.
Bonjour Sylviane.
Que nous réserve ce mois, très favorable à l'observation du ciel ? Car nul besoin de veiller tard pour avoir un ciel bien noir.
C'est vrai. Mais en cette saison, un ciel bien dégagé n'est pas toujours au rendez-vous. Et les températures sont plutôt fraîches. Jeudi 2 et vendredi 3, à l'aube, une bonne heure avant le lever du soleil, horizon est-sud-est, Mars est accompagné d'un très fin croissant lunaire. Mars, que nous retrouvons avec de bonnes conditions d'observation et qui sera présent dans notre ciel tout au long de l'année 2022. Lundi 6 et mardi 7, au crépuscule, 1h30 après le coucher du soleil, au sud-ouest, un jeune croissant lunaire est au-dessus de Vénus. Mercredi 8, horizon sud-sud-ouest, 1h30 après le coucher du soleil, un superbe alignement avec de droite à gauche Vénus, Saturne et Jupiter. Un croissant de lune voisinera avec Saturne. Mercredi 29, 1 heure après le coucher du soleil, très bas sur l'horizon ouest-sud-ouest, Vénus est très proche, légèrement en dessous, Mercure. Vénus, en janvier, va redevenir un astre du matin. Jeudi 31, à l'aube, 1h30 avant le lever du soleil, au sud-ouest, bas sur l'horizon, Mars, avec sur sa droite un croissant de lune surplombant la brillante Antarès, étoile rougeoyante de la constellation du Scorpion. Mars, tout comme Arès, est un dieu de la guerre.
Bon, résumons. À quel moment et à quel horizon est-ce qu'on pourra observer chaque planète ?
Mercure, au crépuscule après le 24, très basse au sud-ouest. Vénus, le soir du sud-ouest à l'ouest-sud-ouest. Mars, à l'aube, de l'est-sud-est au sud-est. Jupiter, en première partie de nuit, au sud-sud-ouest à l'ouest-sud-ouest. Enfin Saturne, en début de nuit, au sud-sud-ouest.
Passons maintenant au focus. Tu as parlé du transit des planètes. Rien à voir avec une question de digestion.
Non, rassure-toi. Le transit en astronomie, c'est le passage d'un objet céleste entre l'observateur et un autre objet. Le premier objet paraît alors se déplacer devant le deuxième. Le terme transit est utilisé dans le cas où l'objet le plus proche possède un diamètre apparent nettement plus petit que l'objet le plus lointain. Lorsque l'objet s'intercalant possède un diamètre angulaire plus grand que le deuxième, le phénomène est une occultation. Si l'observateur est plongé dans l'ombre de l'objet transitant, il s'agit d'une éclipse.
Ça, je sais bien. Quand la Lune s'intercale entre la Terre et le Soleil, c'est l'occasion de l'éclipse, phénomène spectaculaire. Mais les transits, alors, quand est-ce exactement qu'on peut les observer ?
Depuis Copernic et Galilée, on sait que la Terre tourne autour du Soleil. Dans le système solaire, 8 planètes orbitent autour du Soleil. De ces 8 planètes, 2 sont plus proches du Soleil que la Terre et peuvent s'intercaler entre la Terre et le Soleil.
Oui, Vénus et Mercure. Donc, de la Terre, les transits visibles, ce sont ceux de Vénus et de Mercure, c'est bien ça ?
Tout à fait exact. Commençons par Vénus. Les transits de Vénus sont plutôt rares. La période de révolution de Vénus autour du Soleil est d'environ 225 jours, alors que celle de la Terre, c'est bien connu, est de 365 jours. Il faut donc de nombreuses années pour que la configuration d'alignement Terre-Vénus-Soleil se renouvelle. La particularité des transits de Vénus, c'est qu'ils se produisent par couple. 2 transits en 8 ans, suivis d'une période de plus de 100 ans pour le couple de transits suivant.
Alors, les derniers transits de Vénus ont eu lieu quand et quels seront les prochains ?
Les derniers, c'était le 8 juin 2004 et le 6 juin 2012. Pour les prochains, il faudra s'armer de patience car ce sera le 11 décembre 2117 et le 8 décembre 2125.
Est-ce qu'on peut facilement observer le transit de Vénus ?
Oui. car l'ombre de Vénus se découpant sur le soleil est facilement visible à l'œil nu. Pas besoin d'instruments pour cela, juste les précautions d'usage quand on observe le soleil, à savoir des lunettes adaptées. Souviens-toi, en juin 2012, le transit de Vénus était visible en France, au lever du soleil. Pour l'observer, il fallait trouver un endroit avec un horizon est bien dégagé et s'y rendre avant le lever du soleil. Et en juin, c'est très tôt le matin. Arrivé tôt et au bon endroit, nous avons alors vu le soleil se lever, mais dans une mer de nuages.
Et le transit de Mercure alors ?
Vu depuis la Terre, ces transits sont beaucoup plus fréquents que ceux de Vénus, soit environ 13 ou 14 par siècle. La planète Mercure est la plus proche du Soleil, ce qui implique une période de révolution plus courte que celle de Vénus. Les transits peuvent se produire en mai à des intervalles de 13 ou 33 ans, et aussi en novembre, tous les 7, 13 ou 33 ans. Les derniers ont eu lieu le 9 mai 2016 et le 11 novembre 2019. Ce dernier n'était pas visible en France. Les prochains sont prévus pour le 13 novembre 2032 et le 7 novembre 2039.
Est-ce que le transit de Mercure est aussi facile à observer alors que celui de Vénus ?
Non, car Mercure est beaucoup plus petit que Vénus et on ne peut voir son ombre sur le Soleil qu'avec l'utilisation d'un instrument, lunettes ou télescope. Toujours avec les précautions d'usage, c'est-à-dire en utilisant des filtres spécifiques.
Comme Mars est plus loin du Soleil que la Terre, à l'heure où on parle d'envoyer des hommes sur cette planète, on devrait pouvoir y observer des transits de la Terre, alors.
C'est parfaitement exact. Mais ils sont aussi relativement rares. Le dernier a eu lieu le 11 mai 1984 et le prochain est prévu seulement pour le 10 novembre 2084. Y aura-t-il ce jour-là des hommes sur Mars pour observer ce transit ? Souvent, la Terre et la Lune peuvent être perçues transitant de concert. Cependant, il arrive que l'une finisse son transit avant que l'autre ne le commence. Cela a eu lieu pour la dernière fois en 1800 et arrivera de nouveau en 2394.
Au début de l'émission, tu as parlé des mésaventures d'un gentilhomme du XVIIIe siècle. De qui s'agit-il et qu'est-ce qui lui est arrivé ?
De son nom complet, il s'appelait en effet Guillaume, Joseph, Hyacinthe, Jean-Baptiste, le Gentil de la Galésière. C'était un gentilhomme normand, né en 1725. Il était astronome à l'Observatoire de Paris. On lui doit de nombreuses découvertes, en particulier une nébuleuse dans la constellation du Cygne, parfois appelée le Gentil 3. Mais il est surtout resté célèbre pour ses mésaventures.
Alors quel rapport entre le Gentil et le transit des planètes ?
Dans son cas, il s'agissait du transit de Vénus. À cette époque, on cherchait à mesurer le système solaire et l'intérêt de l'observation d'un transit de Vénus est qu'il permet de calculer la taille du système solaire en employant la méthode des parallaxes. La technique consiste à mesurer la légère différence de l'heure de début ou de fin du transit observé depuis des points très éloignés de la surface terrestre. L'écart entre les lieux d'observation permet de calculer la distance Soleil-Vénus par triangulation. Ce transit était prévu pour le 6 juin 1761.
Pour obtenir des mesures précises, il faut donc observer le transit depuis plusieurs endroits de la Terre, c'est-à-dire avoir plusieurs observateurs.
Et alors, ceux-ci sont partis vers des destinations telles que la Sibérie, la Norvège, Terre-Neuve ou même Madagascar. La plupart a réussi à observer au moins une partie du transit. Mais le meilleur résultat a été obtenu par Jeremiah Dixon et Charles Masson au Cap de Bonne-Espérance.
Mais le Gentil dans tout ça ?
Il avait choisi l'Inde. Compte tenu de la durée du voyage, le canal de Suez n'existait pas encore, et de la nécessité de trouver un site propice à l'observation, il était parti de Paris en mars 1760 et avait atteint l'île de France, aujourd'hui Maurice, en juillet. De là, en mars 1761, il avait embarqué à destination de Pondichéry, au sud-est de l'Inde. Alors que le navire était proche de sa destination, ses occupants apprirent qu'une guerre avait éclaté entre la France et le Royaume-Uni et qu'il était devenu dangereux d'essayer d'atteindre Pondichéry. La frégate reprit alors la route de l'île de France. Le 6 juin, en pleine mer, le jour du transit arriva, et le ciel était clair. Mais il ne put faire ses observations astronomiques de façon précise, du fait des mouvements du vaisseau. Il est allé jusqu'au bout du monde, et le prochain transit n'aurait pas lieu avant 8 ans. Comme on l'a vu, les transits de Vénus surviennent par paires. Le suivant était prévu le 3 juin 1769. Aussi décida-t-il de rester dans les parages de l'Inde.
Mais 8 ans, c'est long! Qu'est-ce qu'il a fait alors pendant tout ce temps?
Après avoir passé quelque temps à cartographier la côte est de Madagascar, il parcourut l'océan Indien, puis décida d'enregistrer le transit de 1769 depuis Manille. En but à l'hostilité des autorités espagnoles qui le soupçonnaient d'être un espion, il repartit pour Pondichéry qui venait d'être rendu à la France. Il y arriva en mars 1768. Il construisit un petit observatoire et attendit patiemment. Enfin, le jour du 3 juin 1769 arriva. Mais alors que les matins précédents avaient été parfaitement dégagés, celui-là fut couvert le temps du phénomène et le gentil ne put se livrer à aucune observation.
Le pauvre, de quoi devenir fou? Qu'est-ce qu'il a alors décidé de faire?
Il entreprit alors le voyage de retour, un voyage très mouvementé. Et il arriva enfin en France en octobre 1771, soit 11 ans et demi après son départ, pour découvrir qu'il avait été déclaré légalement mort. Célibataire et sans descendance, sa famille avait commencé à se partager ses biens. Son siège à l'Académie royale des sciences avait été déclaré vacant et investi par un remplaçant. Il dut entreprendre de longs procès pour reprendre possession de ses biens. Mais tout rentra dans l'ordre. Il se maria en 1774 et eut une fille.
Quel destin ! Mais nos auditeurs auront moins de temps à attendre pour écouter la prochaine émission de Clair d'Étoile sur Fréquence 7.